Vous êtes sur RTL.
18h. Et RTL Soir, c'est maintenant avec vous, Olivier Bois. Bonsoir, Olivier.
Bonsoir, Céline. Bonsoir à toutes et à tous. Et bienvenue dans ce RTL Soir. Dans 2h à 20h, Emmanuel Macron nous dira à quoi ressemblera le reste de notre été. Notez-le d'ailleurs, on suivra l'allocution du président en direct sur RTL avant une édition spéciale jusqu'à 21h. Le ton, en tout cas, a changé très clairement ce week-end à l'image du ministre de la Santé, Olivier Véran, qui prévenait hier qu'en l'absence de mesures, on pouvait craindre à nouveau d'être à 20 000 contaminations par jour début août. Le président veut donc aller vite, quelles que soient les décisions ce soir sur le pass sanitaire ou sur la vaccination obligatoire. Les textes seront présentés dans les tout prochains jours. On fait le point sur les derniers arbitrages possibles dans un instant. Et puis il y a cette question centrale également. Peut-on, contrairement aux vagues précédentes, avoir une envolée des contaminations en évitant une saturation de nos hôpitaux? On sait que la vaccination double dose évite les formes graves à 90%. Eh bien, on posera la question à Gilbert Deray, chef de service en néphrologie à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Il sera notre invité, l'invité d'RTL Soir tout à l'heure à 18h15. Dans le reste de l'actualité, l'appel à l'aide du secteur automobile français reçu à l'Elysée aujourd'hui et qui réclame un plan d'urgence de 17 milliards d'euros. L'Union européenne pourrait décider cette semaine qu'à partir de 2035, plus aucun véhicule à essence, diesel ou hybride ne soit vendu sur le continent. Et puis l'Italie sur le toit de l'Europe après sa victoire à l'Euro. Le retour des joueurs a été triomphal à Rome. Et un homme est devenu une star en une soirée. Et le gardien Donnarumma, ça tombe bien, tiens, il a signé au PSG. Mais il va falloir lui faire de la place maintenant. La météo, bonsoir Peggy Broche.
Bonsoir Olivier.
De la pluie toujours, d'ailleurs 5 départements sont en vigilance orange, pluie, inondation.
Exactement, sur la façade est, entre le Bas-Rhin et le Jura, on attend de fortes pluies cette nuit et ça va continuer demain matin, de la pluie sur les 3/4 du pays. Des pluies plus soutenues le matin sur les frontières de l'Est et en continu entre le Nord et le Midi toulousain, où dans l'après-midi elles seront également fortes et localement orageuses. Ailleurs, un ciel souvent gris, des averses ponctuées d'orages. En fait, les seules régions à l'écart du mauvais temps, c'est près de la Méditerranée et la Corse, et sur la pointe bretonne le matin, le long des côtes de la Manche en journée, avec un ciel plus lumineux, le tout sous des températures en baisse, comprises entre 14 à Aurillac et 31 à Nice, 19 à Strasbourg, 20 à Toulouse et 21 à Paris.
Merci beaucoup Peggy Broche. Le quintet, c'était à Châteaubriant, il fallait jouer le 15, le 3, l'As, le 12 et le 5, et puis d'un mot, c'était jour de repos sur le Tour de France, mais le club Jalabert est là, comme tous les soirs, à 18h30. Invité exceptionnel ce soir, le patron du Tour, Christian Prudhomme. Voilà le programme. Merci d'être avec nous sur RTL.
RTL Soir.
Et voilà donc le retour de ce compte à rebours qui ne nous avait pas manqué, pour tout dire. Dans 2 heures à nouveau, le président Emmanuel Macron annoncera des mesures pour tenter de freiner la montée rapide de cette 4e vague. Le variant Delta se propage ces derniers jours beaucoup plus vite qu'imaginé, et notamment dans les zones de vacances. À Lacanau, par exemple, 2 clusters se sont déclarés ce week-end, et un cluster, notamment Denis Grandjoux, parmi les maîtres nageurs de la station balnéaire.
Oui, 5 maîtres nageurs infectés samedi, une équipe de salariés d'un hôtel également touché hier. Le maire de Lacanau-Océan, Laurent Perrondet, prône la fermeté et il attend des annonces dans ce sens de la part du président Macron.
Il y a pu avoir des protocoles qui n'ont pas été respectés. Je crois que dès maintenant, il faut taper fort et on attend impatiemment les mesures du président de la République ce soir.
La rumeur d'une instauration d'un pass sanitaire pour les restaurants est loin de faire l'unanimité chez les commerçants. Laetitia Nourry préside l'association des commerçants de Lacanau.
Ça nous inquiète parce qu'économiquement, ça peut être tragique. D'abord, c'est pas notre métier. On va pas être là à contrôler les gens, à leur demander leur certificat de vaccination, etc. Deux, c'est une ségrégation terrible.
Pour certains touristes, les annonces du président ce soir ne devraient pas remettre en cause les vacances.
Non. Non, je pense que les gens ont réservé les vacances. Ils peuvent. Enfin, et le président va pas pouvoir nous annoncer, un confinement ou des restrictions du jour au lendemain. Donc, je pense qu'il va, oui, mettre en garde sur le fait que peut-être il y a des nouveaux variants et que ça repart un petit peu à la hausse.
Il est occupé à essayer que les gens se vaccinent au maximum.
Une chose est sûre, ce soir, dans les campings et les hôtels de Lacanau-Océan, l'intervention du président de la République devrait être largement suivie.
Merci beaucoup Denis Grandjoux, reportage à Lacanau. Et bonsoir Vincent Derosier.
Bonsoir.
Service politique d'RTL, on entend donc évidemment l'inquiétude qui s'invite à nouveau dans notre été, allocution présidentielle donc à 20h. Vous allez nous dire où on en est des derniers arbitrages, mais une chose est sûre, Emmanuel Macron est décidé à aller vite pour contrer cette nouvelle vague.
Oui, une loi et vite, le texte sera examiné en Conseil des ministres lundi prochain, puis à l'Assemblée les jours suivants pour une adoption espérée avant la fin du mois. 2 gros morceaux dans cette loi. D'abord, la vaccination obligatoire. Doit-elle concerner seulement les soignants ou bien tous ceux qui sont en contact avec des personnes fragiles comme les aides à domicile ou encore les pompiers? C'est un point que le président doit trancher. Et puis, deuxième gros morceau, le pass sanitaire. Bien sûr, aujourd'hui, il est obligatoire pour les regroupements de plus de 1000 personnes. Mais ce soir, Emmanuel Macron devrait décréter un abaissement de la jauge. À quel niveau? Les plus inquiets au gouvernement réclamaient ce matin un déclenchement du pass pour tout événement de plus de 50 personnes. Ça voudrait dire le rendre obligatoire pour les cinémas, les musées, voire même certains restaurants.
Et malgré tout, Vincent, même si la crise sanitaire a rattrapé le président, il est tout de même décidé ce soir à évoquer les chantiers à venir et notamment le dossier des retraites.
Oui, il va dévoiler ses projets pour la fin du quinquennat, mais soyons clairs, c'est sur ce report de l'âge de la retraite à 64 ans que tout le monde l'attend. Il y a un mois, rien ne semblait pouvoir l'arrêter. Aujourd'hui, tous ses amis tentent de le raisonner. Christophe Castaner, François Bayrou ou Richard Ferrand ont tous tenu le même discours au président. Le pays n'est plus prêt, il faut repousser la réforme à un prochain quinquennat. Mais Emmanuel Macron connaît les risques. Repousser sa réforme sera perçu d'abord comme un renoncement et la reporter après 2022 sera forcément analysée comme une candidature à la présidentielle.
Merci beaucoup Vincent Derosier du service politique d'RTL et on rappelle donc cette prise de parole d'Emmanuel Macron à 20h. On la suivra en direct en intégralité sur RTL avant une édition spéciale jusqu'à 21h. L'exécutif donc décidé à accélérer le mouvement, le ton a changé, on le disait ce week-end, par exemple avec Olivier Véran qui prévenait que la courbe, vu la courbe sans mesure, on pourrait être à 20 000 cas par jour début août, puisque ce variant Delta est, rappelons-le, 60% plus contagieux que les précédentes souches. Bonsoir Sophie Jousselin.
Bonsoir.
Et en plus, ce variant, il est particulièrement présent, on l'entendait d'ailleurs à la Cano, sur les zones de vacances très fréquenté par définition pendant l'été.
Oui, commençons par le sud-est. Il représente plus de 80% des nouveaux cas dans les Alpes-Maritimes, le Var, le Vaucluse. Même situation en Occitanie. Si on remonte la côte atlantique, le variant Delta représente près de 8 cas sur 10 dans les Landes, en Dordogne. Il a franchi la barre des 50% en Charente-Maritime. Même chose dans les pays de la Loire, la Bretagne, la Normandie. Même en montagne, 86% des nouveaux cas en Savoie et en Haute-Savoie sont dus au variant Delta. Sans oublier l'Île-de-France. Bref, il sera bientôt majoritaire dans tous les départements. La conséquence, c'est un taux d'incidence qui grimpe. Il est supérieur au seuil d'alerte de 50 pour l'instant dans seulement 7 départements, avec des chiffres très élevés chez les 20-29 ans. La population la moins vaccinée et la plus mobile. On atteint plus de 130 à Paris, 133 dans les Pyrénées-Orientales. Le record, c'est aux Antilles, à la Martinique. Le taux d'incidence chez les jeunes explose plus de 500. Mais là, c'est le variant Alpha, ancien variant britannique, qui est responsable de cette reprise de l'épidémie.
Merci beaucoup Sophie Jousselin, spécialiste des questions de santé ici à RTL. L'obsession des autorités reste la vaccination. Et il y a un chiffre plutôt positif pour le coup. Ce week-end, Doctolib a enregistré un record de prise de rendez-vous. 212 000 personnes pour une première injection. C'est 40% de plus que lors des week-ends précédents. On rappelle qu'à l'heure actuelle, on moins d'un tiers des 18-39 ans sont vaccinés. En France, sur le pass sanitaire maintenant élargi à plus de lieux, c'est une mesure donc qui devrait être annoncée. C'est une restriction de liberté. Est-ce que pour autant c'est possible si on change la loi d'un point de vue constitutionnel? La réponse est oui pour Jean-Philippe Derosier, professeur de droit public à l'Université de Lille.
Puisque l'on est en mesure de déployer un vaccin, on a le nombre de doses suffisantes, on a l'espace, les lieux de vaccination pour le faire et l'espace-temps pour l'organiser, je crois que désormais ce pass sanitaire ainsi prévu est tout à fait possible sur le plan constitutionnel. On peut tout à fait envisager de l'étendre et donc de subordonner l'accès au restaurant ou au musée à la production d'un pass sanitaire. En revanche, si l'on devait tomber dans un excès inverse, qui serait de requérir le pass sanitaire pour tous les actes de la vie quotidienne, ne serait-ce que sortir de chez soi, on ne serait autorisé à sortir de chez soi que dans l'hypothèse de la production d'un pass sanitaire, là pour le coup, je pense que ce serait excessif.
Excessif donc, un pass sanitaire élargi à tous les déplacements, mais possible pour les restaurants. Voilà l'avis de Jean-Philippe Derosier, joint par Jacques Serret. Et puis je vous le disais, cette question centrale, est-ce que cette quatrième vague pourrait ne pas entraîner de saturation de nos hôpitaux? On sait que la vaccination donc protège largement contre les forme grave. Eh bien, on posera la question dans 5 minutes à l'invité d'RTL Soir. C'est le professeur Gilbert Deray, chef de service en néphrologie à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Une pause dans un instant sur RTL. Plus aucune voiture à essence diesel vendue en Europe en 2035. L'Union européenne pourrait l'annoncer cette semaine. Mais le secteur français réclame un plan d'urgence pour tenir le rythme. A tout de suite sur RTL.
RTL Soir. Olivier Bois. RTL Soir, Olivier Bois.
18h11 sur RTL, on en vient donc à l'Union Européenne, plus ambitieuse que prévu sur les véhicules propres. Bruxelles pourrait annoncer mercredi qu'elle ne veut plus aucune voiture, essence, diesel ou même hybride vendue sur le continent à partir de 2035. L'industrie française craint de ne pas pouvoir tenir le rythme et demande à l'État un plan massif d'investissement. Ils ont été reçus ce matin à l'Élysée, Nerissa Emmani.
Oui, entre les ouvriers qui travaillent sur les moteurs thermiques, les sous-traitants et les garagistes, ce sont près de 100 000 emplois qui sont menacés d'ici à 2035 dans la filière. Parce qu'il faut par exemple 10 fois moins d'ouvriers pour fabriquer un moteur électrique qu'un moteur essence. Tout l'enjeu est donc de relocaliser en France les technologies associées à l'électrique. Et c'est pourquoi l'Élysée annonce que le gouvernement prépare pour la fin de l'été un plan d'investissement pour soutenir la transition du marché automobile. Selon les professionnels du secteur, 17 milliards d'euros seraient nécessaires sur 5 ans. 9 milliards consacrés à développer les technologies type batterie électrique, hydrogène, électronique de puissance et 8 milliards pour accélérer le déploiement des bornes de recharge électrique. Enfin, l'Élysée a fait savoir que la France allait continuer à promouvoir l'hybride rechargeable. Bruxelles souhaiterait voir la disparition totale de ces moteurs hybrides en 2035, mais Emmanuel Macron a jugé raisonnable de donner quelques années de plus aux constructeurs français pour permettre de gérer la transition.
Merci Nerissa Emmani du service économique et social d'RTL. Cette affaire maintenant qui avait choqué à l'été 2019 à Pornic en Loire-Atlantique, une fillette de 22 mois avait bu dans un restaurant du détergent qu'on avait servi comme du jus de raisin. Elle souffre toujours aujourd'hui de graves séquelles sur son appareil digestif. Le gérant du restaurant a été condamné à 25 000 euros d'amende avec sursis. Aujourd'hui, la mise en danger de la vie d'autrui n'a pas été retenue, ce qui scandalise le père de la petite fille, Arnaud.
Ce que je ressens, c'est une injustice totale, c'est-à-dire que cette personne, elle aura une ligne dans son casier judiciaire et elle va rien payer, pas d'amende, rien du tout. Et donc moi, ce que je vais devoir expliquer à ma fille, c'est comment ont été condamnés les gens qui ont ruiné sa vie. Et si je dois faire ça avec des mots d'enfant, ben, je vais faire ça avec des comparaisons à l'école. Et donc en gros, le monsieur, il a eu un avertissement à la conduite, il a eu un mot dans son carnet de correspondance, voilà. C'est ça exactement ce qu'a eu ce monsieur-là.
Comment elle va, votre fille, aujourd'hui ?
Ma fille, c'est une petite fille heureuse aujourd'hui, malgré cela. C'est une petite fille très résiliente, qui voit toujours le positif dans la vie. Et elle se rend pas compte, en fait, de ce qui lui est arrivé. Parce que ça lui est arrivé tôt, du coup, elle a pu l'intégrer dans son quotidien. Elle est alimentée aujourd'hui à 30% par une sonde qui est reliée à son estomac. Voilà, enfin, plein d'inconfort, mais qui en font pas une petite fille malheureuse. Voilà.
La colère et le courage de ce père d'une petite fille, au micro de Cindy Hubert. On va terminer avec le football. Ils ont été accueillis en héros à Rome. Ils sont reçus ce soir par le président et le premier ministre. Les joueurs italiens ont ramené la coupe à la maison. Et un homme est devenu une star pendant ce tournoi. Le gardien Gianluigi Donnarumma, sacré meilleur joueur de l'Euro. Il a arrêté deux pénaltys hier soir pendant la séance décisive face à l'Angleterre. Et alors ça tombe bien, bonsoir Quentin Vasselin.
Bonsoir Olivier, bonsoir à tous.
Il sera normalement au PSG la saison prochaine, sauf que son statut a légèrement changé évidemment pendant le tournoi.
Avec Donnarumma. On a Donnarumma, j'étais sûr qu'il arrêterait des pénaltys. C'est le meilleur gardien du monde. Nous avons beaucoup de chance de l'avoir, c'est un type formidable et un gardien de but incroyable.
Les mots sont élogieux, ils sortent de la bouche du coach italien Roberto Mancini. Gianluigi Donnarumma, héros de l'Euro, va maintenant se concentrer sur le Paris Saint-Germain où il est attendu et où il n'est pas sûr effectivement d'être titulaire. Celui que l'on surnomme Gigio a passé sa visite médicale et arrivera libre à Paris après 6 saisons au Milan AC à seulement 22 ans. Montant du salaire, environ 10 millions d'euros annuels jusqu'en 2026. L'officialisation de son transfert n'est plus qu'une question d'heure. Au PSG, la concurrence sera féroce, le natif de la banlieue de Naples devra déloger les cages Keylor Navas. Le Costaricain, 34 ans, a permis au PSG d'accéder à une finale et une demi-finale de Ligue des Champions depuis son arrivée en 2019 dans la capitale. Alors Donnarumma devra-t-il se contenter des coupes à Paris ou poussera-t-il dehors Keylor Navas ? Eh bien, un gros casse-tête en vue en tout cas pour Mauricio Pochettino, l'entraîneur du Paris Saint-Germain.
Un de plus, merci beaucoup Quentin Vasselin, service sport d'RTL. Et puis le Tour de France, c'est jour de repos aujourd'hui sur le Tour avant la dernière semaine, mais rendez-vous tout de même évidemment à 18h30. Le club Jalabert avec Christophe Paco et invité exceptionnel ce soir, c'est le patron du Tour précisément, Christian Prudhomme. On va faire une pause dans un instant, l'invité d'RTL Soir, Gilbert Deray, chef de service en néphrologie à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. On parle évidemment avec lui des annonces à venir d'Emmanuel Macron. A tout de suite sur RTL.
Olivier Bois,
RTL Soir.
RTL Soir, Olivier Bois.
18h17 sur RTL, l'invité d'RTL Soir est donc Gilbert Deray, chef de service en néphrologie à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Bonsoir monsieur.
Bonjour.
Première question, on a eu l'impression ce week-end, je ne sais pas quelle est votre impression à vous, d'un changement de ton légèrement plus alarmiste. Comment vous, vous qualifiez d'abord la situation sanitaire et l'ampleur de cette quatrième vague qui commence ?
Ah, le ton a changé, ça c'est sûr, mais ça date pas de ces derniers jours. Hein. Ça fait déjà quelques semaines que nous sommes inquiets. Et donc, je suis alarmiste.
Alarmiste ?
Également.
Qu'est-ce qui vous alarme précisément ? C'est parce qu'on est reparti sur une courbe exponentielle, les 5000 contaminations jour peuvent devenir 20 000 dans 15 jours, début août ?
Il y a deux éléments. D'abord, on sait depuis plusieurs semaines, pas jours, que la situation va être celle qu'elle est aujourd'hui, puisqu'il suffisait d'observer la Grande-Bretagne, Israël, les États-Unis, le Canada, c'est remonté. Et deuxièmement, effectivement, après avoir atteint un plus bas vers 2000, eh bien, on est en train de remonter à toute allure, ça s'appelle de nouveau une exponentielle. C'est l'un des mots qu'on a appris pendant cette pandémie.
Exactement, exponentielle. Mais ce qu'on a appris aussi, c'est que pour contrer une propagation exponentielle, on n'a pas 36 solutions. Celle du confinement a été efficace. Ce n'est pas évidemment le chemin qu'on prend pour l'instant. Est-ce que vous pensez que les mesures, quelles qu'elles soient ce soir, vont suffire à freiner et à contrer cette vague ?
C'est difficile parce que je ne sais pas les mesures qui vont être annoncées ce soir.
Bah, donc, si on parle de passe sanitaire ou de vaccination obligatoire pour les soignants, est-ce que ça c'est suffisant ?
Tout ce que je peux vous dire, c'est ce que je souhaiterais. Alors, vaccination obligatoire pour les soignants, ça me semble une évidence, c'est éthique, c'est pas ça qui freine l'épidémie. Ça, c'est pour protéger les patients, donc ça devrait déjà être en place depuis longtemps. C'est en place en Italie depuis le mois de mars. Passe sanitaire, ça me paraît être le minimum. Je suis pour la vaccination obligatoire pour tous, pour la protection du groupe. La liberté individuelle s'arrête au seuil d'autrui. Et donc là, quand on n'est pas vacciné, oui, on nuit à autrui, oui, on devrait être vacciné.
Alors, à partir de quel âge ?
12 ans.
12 ans, comme l'Académie de médecine.
Oui, comme tout simplement toutes les indications des vaccins. Quand on a une indication d'un médicament, on peut commencer. Comme ça ne se fera pas, puisque je ne crois pas un instant qu'elle va être annoncée, d'ailleurs elle a été annoncée à ma connaissance dans à peu près aucun pays au monde, on va parler d'un pass sanitaire, qui est en fait quelque chose qui vous rend la vie tellement intolérable que vous allez avoir envie d'être vacciné.
Exactement, c'est le principe. Par exemple, si on a un pass sanitaire pour rentrer au restaurant ou dans un bar, on imagine que la jeune génération, par exemple, pourrait se faire vacciner plus facilement.
100 euros pour la PCR, pour aller boire une bière, ça va coûter cher. Hein.
Si les tests sont rendus payants, là encore, c'est une mesure que vous appelez de vos voeux, tests PCR payants.
Oui, on peut imaginer, vous savez combien coûtent les tests par an ? 5 milliards d'euros. On ne peut pas imaginer de continuer à faire des tests gratuits pour des raisons de convenance. Pour aller au bar, pour le restaurant, pour aller au théâtre, pour le cinéma, ça n'est pas possible. Et donc, oui, ils vont être payants, et puis on ne va pas non plus se faire 3 tests par semaine pour sortir. Donc, c'est forte incitation.
Malgré tout, est-ce que vous aviez eu l'espoir quand même qu'on puisse avoir une vague de contamination sans pour autant avoir d'hospitalisation, avec quand même ces taux de vaccination qui montent et qui protègent un certain nombre de Français, et notamment les plus fragiles, des formes graves ? Est-ce qu'on va aussi avoir les répercussions dans 15 jours, dans 3 semaines, dans les services de réanimation ?
Oui. Parce qu'il faut regarder ce qui se passe dans le monde. Et quand on regarde ce qui se passe une nouvelle fois en Grande-Bretagne, aux États-Unis, en Israël, c'est ce qui est en train de se passer. Par exemple, aux États-Unis, dans les 13 États les moins vaccinés, les hospitalisations remontaient de 25%. Donc c'est inexorablement ce qui va se passer dans tous les pays.
Et alors, sur cette obligation vaccinale, cette mesure ne va pas être prise, pour vous, c'est une erreur ?
Moi j'aurais préféré, parce que finalement le passeport sanitaire c'est une obligation qui ne dit pas son nom, puis ça va pas être sympa à appliquer, hein, parce que les restaurants, les bars et le reste, le code qu'il va falloir rentrer pour aller dîner, qui va le contrôler, comment ils vont faire ? Moi on me dit, c'est difficile d'appliquer l'obligation vaccinale. Je suis curieux de voir comment ça va être facile d'appliquer le pass sanitaire, le pass test PCR, ça va être dur, hein.
Et quand on parle parfois de messages contradictoires, je crois que par exemple sur les images de l'euro, je ne sais pas si vous êtes heureux pour les Italiens, mais vous avez quand même été choqué par les rassemblements qu'on a vus, éventuellement les 60 000 personnes à Wembley. Est-ce que vous pensez que là encore, les Français ont du mal à comprendre quand on voit parfois des choses qui sont autorisées et puis d'un seul coup la vis qui se serre.
J'ai dit et écrit que l'euro, qui est absolument extraordinaire, c'est un scandale sanitaire. Et ce qui s'est passé à Wembley, ce qui s'est passé à Saint-Pétersbourg, la ville la plus atteinte en Russie, qui est déjà un pays très atteint. Quand vous réunissez 60 000 personnes dans le stade, plus la fête avant, plus la fête après, plus les bus, etc., etc., oui, vous avez des foyers épidémiques, et c'est ce qu'on a vu. Les Écossais sont revenus contaminés, les Finlandais sont revenus contaminés. On a dispersé la Covid aux quatre coins de l'Europe.
Et dans votre hôpital, comment est-ce que vous vous organisez ? Vous êtes réaliste, vous pensez que la vague va s'étendre avec une augmentation des hospitalisations. Est-ce que déjà, on est en train d'adapter les tableaux de service ? Est-ce qu'il va encore falloir rappeler des soignants ? Comment est-ce que l'hôpital va tenir face à une vague, honnêtement, que tout le monde, quand même, pensez et espérez éviter pour cet été ?
Oui, on a été une fois de plus imprudents. Alors pour l'instant, l'hôpital se porte pas mal, puisqu'il nous reste, on va dire, un peu moins de 10 000 patients en réanimation, pardon, de 1 000 patients en réanimation pour la Covid, et environ 7 500 pour ce qui est des patients Covid hospitalisés. Donc on se prépare dans une période difficile. Difficile parce que c'est les vacances, difficile parce qu'on est épuisé. Donc j'ose espérer que la vague hospitalière ne va pas être durant l'été, je ne sais pas comment on va faire.
Parce que les vacances sont là et que les gens prennent leurs vacances, les soignants prennent leurs vacances.
La fatigue, ils n'en peuvent plus. Hein.
Et alors, quand vous parlez à vos collègues, quand vous dites que la vaccination pour les soignants est un problème éthique, vous en discutez avec certains qui ne sont pas vaccinés. Quelle réticence s'exprime quand on est soignant aujourd'hui, quel que soit le niveau, pour se faire vacciner?
C'est les mêmes réticences que le reste de la population, c'est-à-dire la crainte qu'on ne sache pas si le vaccin ne va pas donner des effets secondaires dans quelques années, que le vaccin va s'intégrer dans l'ADN, que le vaccin rend stérile. C'est exactement les mêmes craintes. Et évidemment, je suis très ennuyé parce que toutes ces craintes, nous avons les réponses pour chacun des points. Le vaccin...
Ça n'est même pas un flou, ce sont des réponses scientifiques.
Ah, c'est clair, le vaccin est extrêmement efficace, 90% contre les formes graves, et tous les problèmes qui ont été soulevés, pour beaucoup, par des antivax forcenés, qui ne représentent que moins de 5% de la population, sont faux. Nous avons les réponses à tout, le vaccin est sûr.
Un dernier mot sur le pass sanitaire, vous avez commencé à l'évoquer, vous êtes partisan d'un pass sanitaire strict. Qu'est-ce que ça veut dire strict? Obligatoire pour tous les déplacements de la vie, pour aller dans un magasin, pour aller dans un musée, dans un bar?
Tout déplacement dans un lieu clos, public. Donc c'est un magasin, c'est un bar, c'est un restaurant, le voyage je n'en parle pas parce que c'est déjà acté. Oui, tout ça.
Pass sanitaire ou pass vaccinal?
Alors moi j'aurais préféré un pass vaccinal.
C'est-à-dire mais que le vaccin n'est pas de PCR négatif de moins de 48 heures.
Vaccin. Et malheureusement, on ne va pas me le donner, donc pas sanitaire.
Pas sanitaire avec les tests rendus payants qui seraient une manière détournée de forcer les gens à y aller, puisque comme vous dites, un test à 50 € par jour peut être quand même assez dissuasif.
Absolument.
Merci beaucoup, merci Gilbert Deray d'avoir été l'invité d'RTL Soir. Je rappelle que vous êtes chef de service en néphrologie à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. À bientôt sur RTL. Bonne
avec
soirée.
Avec plaisir, bonne soirée.
Une pause dans un instant. À la télé ce soir, on retrouve Isabelle Morini-Bosque qui est déjà avec nous en studio. A tout de suite sur RTL.
RTL Soir, Olivier Bois. RTL Soir, Olivier Bois.
À la télévision ce soir, on vous retrouve Isabelle Morini-Bosque. Bonsoir.
Bonsoir tout le monde.
On va vous retrouver d'ailleurs tous les soirs pour cette chronique à cette heure-là. On va commencer évidemment, Isabelle, par les audiences. Si je vous demande quel est le plus gros score d'hier soir, on imagine qu'il y avait un ballon rond quelque part.
Facile, ben oui. C'est le foot d'abord, le foot d'accord, le foot encore. Avec quelques 11 800 000 fanas jusqu'à 23h53 devant la finale de l'Euro Angleterre-Italie. Plus de 52% des téléspectateurs de tous âges étaient devant le poste et plus de 56% des femmes. Or, 56% des femmes sans la France, c'est quand même un phénomène. Alors, par pudeur, on taira les audiences des autres, hein, faut être aimable.
Ils ont tout écrasé.
Et si vous voulez que j'aille moi aussi droit au but, ben, il faut qu'on passe à la suite.
Eh ben, avec plaisir, Isabelle. Je suppose que l'on a des films rigolos vu la période estivale.
Exactement.
Pour nous remonter le moral.
J'ai même des fictions vraiment de saison, car qui dit grandes vacances dit colonie de vacances. Et j'ai ça en magasin sur M6 qui propose Nos jours heureux, une comédie réussie de 2006 montrant le quotidien d'une colo vue côté mono et vue côté ado et loupio. Elle est signée du tandem Nakache-Toledano. Avant Intouchable, leur grand succès, mais il y a déjà leurs pattes là et une belle brochette d'acteurs, Jean-Paul Rouve, Marie-Lou Berry, Omar Sy, tous vont découvrir qu'une colonie de vacances, ça n'a parfois de vacances que le nom échantillon.
Est-ce que vous avez des questions en rapport avec la colo?
3 semaines, c'est lundi.
J'ai pas ma valise.
Est-ce que je peux changer de chambre?
Oui. Chers parents, bonjour. Bienvenue à la colonie Séjours Heureux. Le temps est magnifique.
Je veux pas rester.
Surtout pas d'inquiétude. Vos enfants sont entre de bonnes mains.
Bon alors toi t'avais mal où? Tu sais plus, bon bah prends un verre d'eau, voilà.
Allez, on s'active. Dans une ambiance saine et festive, tout le monde apprend peu à peu à se respecter.
Mère, tu peux pas me foutre un peu la paix toi? Ta gueule.
Parle plus fort là, parce que vraiment c'est chiant. Heureusement, les animateurs s'efforcent de rester un modèle pour les enfants.
Céline, je l'ai monté toute la nuit. Ah classe.
Cet été, confiez vos enfants à des professionnels.
Yo Mané, dis-moi ce qui va pas.
Je sortirai jamais avec une fille. Je vois bien que je peux pas.
Tu dis des bêtises. Moi si j'avais eu 13 ans, dans cette colo, j'aurais bien aimé sortir avec toi.
C'est vrai? Tu dis ça pour me faire plaisir?
Ah non, je suis très sérieuse.
Je le prends pas mal Nadine, mais moi je pense pas que j'aurais accepté.
Voilà, le trait est parfois épais, mais on se meut, on s'émeut, on rit et on sourit, alors que demander de plus? Cela dit, comédie de saison sur TF1 aussi. avec Camping Paradis. C'est récréé, vous savez, par l'ancien flic devenu scénariste Michel Alexandre. L'écriture est parfois aussi paresseuse que les vacanciers, mais c'est toujours attachant, très sympathique, avec surtout un personnage secondaire que le public adopte, que le public adore. Il s'appelle Christian Parizeau. Dieu sait que j'ai souvent taquiné notre Vincent à nous avec ce personnage râleur, mauvais coucheur, mais bon cœur, qui lâche en train de changer... Non, bon cœur, oui. Qui lâche est en train de changer un pneu quand arrive le patron du camping, Tom Delorme.
Alors, qu'est-ce qui se passe, monsieur Parizeau ?
Eh ben, il se passe que si vous avez été mieux entretenu, ma titi n'aurait pas crevé, Delorme.
Attendez, je vais vous donner un coup de main, alors.
Encore heureux, techniquement, vous êtes responsable.
Bon, allez, je remets celle-là, du coup ?
Ah oui. Et vous rayerez pas la jante, hein. Vous pourriez vous activer un petit peu, moi je suis pressé là. Hein.
En fait, je vous ai proposé de vous filer un coup de main, hein. Pas de faire le boulot à votre place, parce que du boulot j'en ai déjà moi.
Comme d'embrasser les infirmières.
Pardon ?
Je vous ai vu Delorme en train de vous galocher avec la jolie Stéphanie. Là. Elle est vraiment très bien cette petite, hein. Même si je vois pas ce qu'elle vous trouve.
Voilà, je sais pas ce qu'elle vous trouve. Être récupérée par le public, vous savez, c'est déjà ce qui était arrivé au capitaine Marlowe, qui n'était pas du tout destiné au départ à revenir sur les écrans. C'était un téléfilm unitaire. Voilà, ça c'est la parenthèse. Mais je terminerai avec un vrai héros. Vrai de vrai, pour le coup. Je l'ai vu sur la 5 dans les avions du bout du monde. Il s'appelle José Camacho, il est mexicain. Depuis 15 ans, il survole dans son avion Cessna 185 la région boisée de Chiapas. Enfin, boisée, ça, c'était avant. Atterré en effet de constater la destruction progressive de la forêt, il a décidé de reboiser en projetant par avion des centaines de kilos de graines lestées de terre par des bénévoles. Alors lui, c'est vrai de dire qu'il a un grain, mais là, c'est vraiment... pour un bien.
Merci beaucoup. Merci pour le programme, Isabelle Morini-Bosque. On vous retrouve demain à la même heure. Bonne soirée à vous. Il est 18h et presque 30 minutes sur RTL.
RTL Soir, Olivier Bois.
L'essentiel de l'actualité, c'est donc à 20h qu'Emmanuel Macron prendra à nouveau la parole pour annoncer des mesures plus fortes pour contrer la montée soudaine de la 4e vague en France. On est à nouveau à presque 5000 cas détectés tous les jours, mais la progression menace à nouveau d'être exponentielle. Parmi les mesures envisagées, l'extension du pass sanitaire à plus de lieux de fêtes ou de rassemblements, la vaccination obligatoire également pour un certain nombre de personnels, et notamment les personnels soignants. Le président qui lancera, c'est sûr, un appel à se faire vacciner. Un tiers seulement des 18-39 ans le sont aujourd'hui, mais il y a un chiffre positif plutôt de ce week-end. Doctolib qui a enregistré un record de prise de rendez-vous, plus de 200 000, en hausse de 40% par rapport au week-end précédent. La prudence donc s'impose à nouveau pour cet été. À ce titre d'ailleurs, les spectateurs pour le défilé du 14 juillet sur les Champs-Élysées devront présenter précisément un pass sanitaire. Ils devront porter un masque aussi. À l'inverse, même si cette nouvelle vague frappe aussi l'Angleterre avec là-bas 35 000 cas par jour, eh bien le gouvernement confirme qu'à partir du 19 juillet, il va lever quasiment toutes les restrictions, à commencer par l'obligation du port de masque, même s'il restera recommandé seulement dans les endroits clos. À Pornic, la colère d'une famille dont la petite fille a été grièvement blessée en 2019. À l'époque, elle avait 22 mois et elle avait bu dans un restaurant du détergent servi comme du jus de raisin. Le gérant a été condamné à une peine d'amende seulement avec sursis. D'où la colère de cette famille. La météo, on vous retrouve Peggy Broche.
Ah,
alors, ce
nouvelle.
Sera encore pluvieux et orageux.
Exactement.
Demain. Vous n'auriez pas plutôt des bonnes nouvelles avant les annonces?
Alors, les bonnes nouvelles, ça reste près de la Méditerranée.
Oui,
là,
toujours.
Il fait beau, il fait chaud, voilà, ça c'est fait. Mais sinon, c'est vrai que le temps est plutôt humide, pluvieux, orageux sur les trois quarts du pays. Alors, les zones les plus pluvieux, où les pluies seront plus conséquentes le matin, entre le Grand Est et le Nord des Alpes, avec des pluies bien soutenues. Entre les Hauts-de-France, le centre, jusqu'au midi toulousain également, des pluies continues. Et de part et d'autre, un ciel chargé avec des averses. Seules les régions, donc près de la Méditerranée, vont profiter d'un beau soleil, mais avec du vent. Et puis, un temps plus sec également sur la pointe bretonne. Dans l'après-midi, la zone de pluie bien soutenue localement orageuse sera des frontières du Nord à l'Île-de-France, en passant par les Pays de la Loire et en redescendant vers le midi toulousain. Ailleurs, entre les Pyrénées et le centre-est, un ciel chargé, ponctué d'averses localement orageuses. Ça restera dégagé avec du vent près de la Méditerranée. Pas mal de vent également sur les Pyrénées et la façade atlantique. Et puis toujours à l'écart, parce qu'il y a quand même quelques régions qui profiteront d'un temps un peu plus lumineux avec moins d'averses. La Bretagne et les côtes de la Manche, on en profite. Tout ça sous des températures qui seront en baisse encore à l'est. Moins 7 degrés par endroit à l'est. Hein. Il fera 14 seulement à Aurillac, je parle bien des maximales. 19 à Metz, il en a fait 26 aujourd'hui. 19 à Cherbourg comme à Auch, ainsi qu'à Grenoble. 20 degrés à Lille et à Bordeaux. 21 à Paris, 21 à Montélimar, 26 à Perpignan, 31 à Nice. Et je vous rappelle qu'il y a actuellement 5 départements en vigilance orange pluie inondation entre le Bas-Rhin et le Jura. Un épisode de forte pluie attendu pendant cette nuit.
Et la météo, elle ne va pas s'arranger tout de suite, Peggy, en plus.
Et non, parce que malheureusement, ça va continuer comme ça. Demain, après-demain, par exemple, mercredi, on aura encore de fortes pluies, des pluies plus fortes sur l'est du pays, un peu moins sur l'ouest. Jeudi, sur le nord-est, les pluies seront encore soutenues. Des Pyrénées en remontant vers le nord-est, alternance de pluie, du nuage et d'éclaircies et un temps plus sec sur l'ouest du pays et toujours près de la Méditerranée. Il faudra attendre vendredi pour une belle amélioration par l'ouest. Et ce week-end, où là, on pourra peut-être dire ouf et profiter de l'été.
Eh bien voilà, finissez par une bonne nouvelle. Merci beaucoup, Peggy Broche. À demain. Et c'est la fin de ce RTL Soir. On va aller saluer Christophe Paco sur la route du Tour. Bonsoir, Christophe.
Bienvenue à Andorre-la-Vieille pour cette journée de repos, la deuxième sur le peloton. Peloton très fatigué, il reste encore 6 jours de course. On en parle avec un invité exceptionnel ce soir aux côtés de Laurent Jalabert. C'est le patron du Tour, c'est Christian Prudhomme, notre invité. Jusqu'à 19h ce soir, vous qui avez fait l'étape du Tour, vous savez que c'est dur, hein, ce qu'il reste à faire encore.
C'est bon dur, bon, c'est dur, très dur les Pyrénées. Allez, à tout de suite Christophe, merci beaucoup. On fait juste une pause sur RTL et donc on retrouve le patron du Tour, Christian Prudhomme. Merci d'être avec nous sur RTL.
RTL, Tour de France 2021.